la Grande Traversée des Alpes, la GTA, un documentaire sonore à travers les massifs alpins, du Léman à la Méditerranée, à pied avec Laurent Barbier, captation d'une conférence photo avec le club des traqueurs d'images à Saint-Hilaire-du-Rosier. Bonjour Laurent, vous êtes l'auteur de cette conférence que nous allons suivre dans quelques instants, mais en introduction, une mise au point, hein. À l'instar de la photo sur la motivation, les prédispositions, l'organisation autour d'un projet qui n'est pas une mince affaire en regard à l'implication que cela représente. À ce propos, déjà, le défi de cette grande traversée, et qu'est-ce qui vous a un petit peu mené à l'accomplir? Vous êtes un peu aussi montagnard quelque part?
Oui, exactement, je suis montagnard, donc j'ai un passé déjà de coureur à pied en montagne. Bon, ben, après la carrière se termine au bout de 30 ans de course à pied. Et donc après, je suis parti sur autre chose, c'est-à-dire je suis parti sur la marche longue distance. Donc après, on regarde un petit peu ce qui se fait en France, sur certaines traversées, certaines boucles. Bon, il y a des choses qui sont... Ce que j'ai fait il y a quelques temps déjà, c'est la traversée, de, bien sûr, du Vercors. Après, bon, j'ai fait les Écrins, le Queyras, j'en ai fait différents. Puis en plus, comme je travaillais, donc j'avais pas trop le temps, c'est-à-dire ça me prenait une semaine, quoi. Après, c'est vrai qu'avec la retraite, je me suis dit, on va se lancer sur du un peu plus long.
Voilà, un grand défi. Et qu'est-ce que cela représente, ce défi de cette grande traversée des Alpes?
Ah, pour moi, c'était une expérience extraordinaire à vivre dans sa vie, quoi. Mmh. Je veux dire, c'est fabuleux à vivre. Disons, on est vraiment dedans, complètement, tous les jours. On se lève le matin, on n'a qu'une chose en tête, aller marcher, gravir les sommets, redescendre. C'est fabuleux.
On peut donner quelques chiffres pour se donner effectivement une certaine impression de ce que cela peut représenter.
Donc représenter, ça représente, disons, entre 620 et 650 km. Je n'ai pas fait exactement le calcul pile poil. Parce que bon, j'ai fait pas mal de variantes aussi. Je voulais faire certaines choses. Voilà. Après, bon, il y a autour de 40 000 mètres de dénivelé. Je crois que ça fait plus de 10 fois l'Everest, je crois. Ça représente ça. Après, bon, c'est un parcours où on franchit beaucoup de cols, hein, c'est 40 cols. Donc, tous les jours, on franchit plusieurs cols, jusqu'à 5 à 6 cols par jour. Voilà, bon, après, comme je dis, il y a les petits cols et les gros cols. Donc, il y a des cols où on est de nombreuses heures, où il y a beaucoup de dénivelé par jour. Bon, je m'étais fixé, avant de démarrer, je m'étais fixé des objectifs, c'est-à-dire je voulais pas dépasser les 30 km et pas dépasser les 2000 positifs. Voilà, parce que je savais que bon, je pouvais enchaîner sur plusieurs jours, ça me posait pas trop de problèmes. Bon, après c'est quelque chose, au bout de la deuxième semaine, j'étais plutôt entre 35
ouais,
et 40.
Ça se montait un peu dans les tours.
2500, voire un peu plus.
Alors pour parler organisation, mais écoutez aussi Cécile, on va vous poser quelques questions en ce qui concerne déjà l'étincelle qui a nourri cette aventure. C'est quelque chose qui, tout doucement, s'est un petit peu formé.
Bon, ça fait déjà quelques temps. Puis une fois qu'on a la tête, on sait qu'on va le faire. Là, on s'y prépare. Disons, on regarde au maximum de choses. On prend pas mal d'informations. On lit certaines... Moi, j'ai un livre de référence qui est de Sus Itinérance, qui est un topo guide, que j'ai lu notamment avant de partir, mais que j'ai lu aussi surtout quand j'ai fini, parce que pour me rappeler tout ce que j'ai vécu, et ça correspond très bien à ce que j'ai vécu.
Et des aventures aussi, d'autre part, que vous avez pu lire, qui vous ont donné envie de faire le pas?
Oui, bien sûr, il y a toujours, moi j'ai toujours quelqu'un, j'ai toujours des gens en référence, c'est-à-dire j'ai toujours Sylvain Tesson, notamment, bon, qui a écrit Les Chemins Noirs, que j'ai vu au cinéma, bon, je préférais le livre. Il a participé au film La Panthère des Neiges avec un photographe très connu en France qui s'appelle Vincent Meunier. Voilà, et c'est quelqu'un qui aime l'aventure. Voilà, sa passion, c'est l'aventure. Et donc lui, il a fait beaucoup de choses à cheval, à pied, énormément.
Énormément d'itinérance, hein, ce qui vous a animé. Alors, quel type d'itinérance, puisque marcher en montagne, ça peut être vraiment différents cas de figure?
Oui, tout à fait. Donc moi, c'est vraiment marcher seul, c'est-à-dire c'est vraiment être libre. C'est-à-dire on n'a pas de contraintes. On sait où on part, on ne sait pas quand on va s'arrêter. Personne vient vous influencer, justement, c'est mon expérience que j'ai eue. Le troisième jour, donc, j'ai marché avec une personne, et c'est vrai que je me suis aperçu que ça a influencé dans mes choix. Mmh. Voilà. Donc des choix d'itinéraire, des choix de la vitesse où on marche, la cadence, quand on s'arrête, voilà. Donc on allait discuter parce qu'on s'entendait très bien avec la personne que j'ai rencontrée. Et c'est vrai que lui, c'était pareil, il marchait seul. Mais ça influence toujours, dès qu'on est deux, ça, on a des influences. Et que moi, vraiment, c'était, je voulais vivre pleinement, faire mes choix. Des fois, ils étaient bons, des fois, ben, très mauvais. Hein, mais bon, ça fait partie, on le sait dès le départ, donc bon, on assume totalement. Voilà, mais c'est ce qui est très intéressant de marcher seul.
Alors, vous côtoyez aussi, lors des chemins, des marcheurs très, très chargés. Ça n'avait pas l'air d'être spécialement votre cas.
Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis parti. Donc, ce qu'on appelle le poids de base. Alors, le poids de base, c'est un poids sans le l'eau, qui est en fait tout ce qui est consommable, sans l'eau et la nourriture. Donc, je suis parti à 4,5 kg. Justement, après cette expérience, j'ai changé certains items, ce qu'on appelle, et ben, je suis reparti en Belle Donne début septembre. Et là, je suis parti, j'avais 3,5 kg.
Peu de choses dans le sac à dos, Cécile.
Oui, c'est surprenant. Qu'est-ce que tu avais, du coup, en termes de préparation de repas, par exemple, ou de vêtements? Comment tu gères ces choses-là?
Pour moi, j'ai l'habitude, j'aime bien avoir des certitudes. C'est-à-dire qu'au niveau des vêtements, bah, je suis parti avec des affaires pour marcher, voilà, qui m'ont fait les 18 jours. Après, des affaires pour dormir, c'est-à-dire c'est des affaires propres, qu'on se sert que le soir. Qu'un bivouac, c'est-à-dire il y a toujours deux parties, c'est-à-dire une partie qui est dynamique et une partie qui est statique. C'est-à-dire tout ce qui est dynamique, on marche avec des affaires, et tout ce qui est statique, on a d'autres affaires. Donc en fait, quand on a deux jeux, hein, voilà, plus après des affaires de pluie, parce que bon, on sait qu'on va rencontrer du vent, de la pluie, bon, ça fait partie du jeu. Donc là, il faut vraiment bien connaître son matériel. Et surtout au niveau de, en plus du matériel, il faut bien l'organiser dans son sac à dos. Quand il pleut, ben, on ne va pas le chercher au fond du sac. Voilà, donc il faut que ce soit à portée de main. Voilà, ben ça c'est une question d'habitude. Moi j'adore mon matériel, bon, j'ai quelques marques. Après notamment, ben, ça influence les choix de mes proches aussi, parce que bon, on a tous, dans ma famille, on a tous la même paire de chaussures, notamment. Puis les vêtements de pluie, tout ça, je trouve que ça a été très efficace.
4 kilos pour tout ça, le vêtement chaud, etc.
Oui, oui, donc en fait, quand on part avec, comme je dis, il y a deux choses dans. Quand on marche, il y a l'essentiel et après le confort. Donc le confort, on l'oublie, on le laisse à la maison et on part qu'avec l'essentiel. Donc pour ce qui est tout ce qui est lessive, tout ça, moi je suis l'adepte de la lessive sèche. C'est-à-dire que le soir, ça ne sert à pas à grand-chose de faire la lessive parce qu'en fin de compte, ça ne sèche pas la nuit. Mmh. Donc en fin de compte, vous ne faites que la dernière opération, vous ne faites que le séchage. Et de temps en temps, on fait la lessive. Bah, quand on va ou une nuit à l'hôtel, ou là, j'ai dormi chez mon frère. Donc, bah, ça permet de faire la lessive. Voilà. Donc, il faut avoir des vêtements totalement adaptés. C'est d'ailleurs que moi, je suis adepte de la laine de Mérino, voilà, qui est antibactérien, qui n'a pas d'odeur. Puis, de toute façon, à un moment, quand on marche, au bout du deuxième jour, comme je dis, on a tous la même odeur. C'est-à-dire, on a l'odeur de l'humain.
Voilà. Pour la gestion des repas, comment ça se passe?
Donc la gestion des repas n'est pas du tout comme une personne qui est sédentaire. C'est-à-dire que, par exemple, ben, moi je commence le matin, c'est-à-dire que j'ai pas de repas fixe. C'est-à-dire le matin, j'aime pas trop déjeuner parce qu'il fait souvent froid, humide. Je préfère démarrer à jeun, parce que bon, le matin, j'ai surtout des barres de céréales, avant toute chose, qui est facile à trouver dans des villages ou même dans des petites épiceries. C'est facile à trouver. Et ce qui me permet donc de manger tout en marchant. Alors des fois, je m'arrête dans un refuge où là, par exemple, une journée, je me suis retrouvé un matin à trouver une boulangerie, un café.
Tout ce qui concerne, on commençait à parler de repas, mais également l'eau.
Donc l'eau, c'est la partie un peu le plus compliqué à gérer, disons... avec le recul, donc mon expérience, c'est-à-dire qu'on part, il faut gérer son eau. Moi, je pars avec très peu de contenants, c'est-à-dire j'ai deux flasques, ce qu'on appelle des gourdes flasques, qui sont devant, parce que ça me permet de regarder, en fin de compte, ce que je consomme en eau. Donc, je sais à peu près combien je consomme en eau par heure. Puis, tout dépend, après, le matin, moi, on boit moins que l'après-midi, c'est plus facile à recharger. Et surtout, ce qui est très important, c'est d'avoir un filtre à eau. Parce que justement, c'est l'un des gros dangers, disons, c'est de choper un virus, une bactérie, avec de l'eau ben, en montagne. Vous ne savez pas en amont ce qu'il y a eu, s'il y a eu une bête crevée, voilà, s'il y a des bactéries, on ne peut pas le voir, ni des virus. Donc il faut absolument filtrer l'eau, ce qui est très important. Filtrer l'eau, et après il y a deux choses, justement, au niveau du deuxième jour, j'ai rencontré des jeunes qui avaient peu d'expérience, et justement, c'était leur gros problème de la gestion d'eau, parce que... Notamment, ils utilisaient ce qu'on appelle une poche à eau, mais qui est dans l'eau. Donc, ben, on ne voit pas ce qu'on consomme en eau. Donc, ils se retrouvaient, il y a des moments à sec ou alors à des moments portaient énormément d'eau. Puis après, je leur ai expliqué qu'il faut faire très attention en montagne, c'est-à-dire qu'on ne boit jamais de l'eau froide. Quand on arrive, par exemple, à un point d'eau, dans un bassin, n'importe quoi, on ne boit jamais l'eau du bassin. On vide d'abord ses flasques. On boit l'eau qui est chaude et après on remplit d'eau froide ces flasques, mais on ne boit pas l'eau froide. Pour être malade, il n'y a rien de mieux que de boire de l'eau froide, de l'eau glacée, parce que notre corps il est en température. Et bon, si
l'eau à quelques degrés surtout en montagne.
Voilà, donc ça c'est un des gros risques et ça ils ne savaient pas du tout. Et c'est vrai que quand on arrive, ben, on vide, même s'il reste un litre, ben, on vide complètement son eau et on la remplit, mais on ne boit pas tout de suite.
Mais il fallait repérer quand même des sources au préalable, savoir un petit peu quand est-ce qu'on pourrait trouver de l'eau.
Oui, tout à fait. Donc là, bon, disons, on a l'habitude, c'est-à-dire qu'on a une application au niveau du téléphone et bon, qui est au niveau des cartes hygiène. Et là, c'est vrai qu'il y a tout, c'est bien marqué au niveau de... Disons, c'est bien marqué. Moi, je suis parti fin juin... Donc l'eau, c'est pas un très très gros problème. Bon, souvent, des fois, je partais le matin, j'avais même pas un demi-litre d'eau.
Vous étiez confiant.
Oui, non, ça m'a jamais inquiété. Surtout les Alpes du Nord. Après les Alpes du Sud, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai fait la traversée, notamment à partir du col du Granon jusqu'à Briançon, en passant par les crêtes, où là, il y avait, je savais qu'il y avait pas d'eau.
Parce que quand il y a des kilomètres et des kilomètres de crêtes, il faut être bien muni.
Tout à fait, parce que déjà, bon, il n'y a pas d'ombre.
En plus.
Ça tape énormément. En plus, je suis passé l'après-midi, donc il faisait très chaud. Voilà. Et on sait cette partie-là, il n'y avait pas de source. Il fallait bien gérer. Donc, en fait, quand je me calculais dans la descente ce qui me restait en eau par rapport à Briançon, j'avais 1500 mètres de dénivelé en descente. Voilà. Et donc, je savais qu'il fallait que je prenne tous les 100 mètres une petite gorgée d'eau. C'est-à-dire on apprend à boire,
à économiser
l'eau. C'est-à-dire qu'on gère l'eau. On sait à peu près combien on boit de gorgées dans la flasque. Et, bon, j'ai fini avec à zéro.
Une dernière question. Oui. Si tu repars en expédition, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais par rapport à ta première expérience?
Oui, tout à fait. Je changerais certaines choses. Notamment, bon, j'ai déjà changé le sac à dos. Parce que donc, je suis parti avec un sac qui faisait 45 litres, mais qui était déporté. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle un filet, c'est un dos filet. Et ça ne m'a pas trop plu. Parce que c'est-à-dire que ça fait beaucoup de déport dans le dos. Donc je suis parti sur un sac qui est vraiment près du corps, qui n'a pas d'armature. Donc qui est bien plus léger, parce que c'est un sac qui fait que 400 grammes. Voilà. Mais par contre, après, il y a une façon pour le charger. Donc, j'ai regardé sur YouTube, parce que sur YouTube, on
trouve tout.
On trouve de tout. Voilà, du bon, du très bon et du mauvais. Voilà, bon, après, on trie.
On fait la part des choses.
On fait la part des choses. Mais c'est vrai que je suis reparti en Belledonne et ça m'a vraiment plu de partir avec un sac à dos qui colle vraiment au corps, même si on a plus de transpiration. Mais ça a des avantages, notamment, je suis tombé deux fois. Notamment dans une descente qui était très, très, très compliquée à gérer. C'était le col le plus haut, le col de Stropia. Donc, je me suis demandé si j'allais vraiment descendre de là-dedans. Parce que, bon, c'était. Le chemin, c'était hors sentier. C'était un peu compliqué. Dans les éboulis, ça tenait pas beaucoup. Beaucoup de dénivelé. Donc là, je suis tombé. Et c'est vrai qu'avec le poids du sac à dos, ça m'entraînait un peu en arrière. Donc, je suis parti en arrière.
Parlons de aussi ce qui concerne les cartes, parce qu'avant de partir, on imagine bien toute une série de cartes à suivre, aussi peut-être par le portable des applications qui peuvent être facilitantes.
On part avec aucun livre, hein. Donc disons moi.
Oui, ça a fait gagner du poids de pas avoir de carte sur soi.
Oui,
aussi.
Puis moi j'utilise une application, donc ça, depuis que je marche, ça fait la deuxième que j'utilise, donc j'ai changé. J'en ai une qui, je trouve, qui est vraiment très très bien, qui est adaptée, voilà, que j'ai l'habitude de partir avec. Notamment, bon, t'as là, dedans, il y a le GPS, c'est-à-dire cette géocalise. Ça te permet de télécharger les cartes aussi, parce que ce qui est important, c'est que t'es souvent hors réseau. Donc, il faut bien télécharger tes cartes à l'avance.
D'accord. On peut se repérer avec le GPS, même si on est hors réseau et
oui,
qu'il y a
oui,
la carte.
Oui, tout à fait. Si tu télécharges la carte, oui. Et notamment aussi, je fais des tracés. C'est-à-dire que quand je fais des variantes, ben, je fais mes propres tracés. Et donc, le tracé, en fin de compte, ça me permet de... C'est un outil de navigation. Mm-hmm. Ça a très, très bien fonctionné. Il suffit que d'avoir de la batterie dans son téléphone et que le téléphone marche. Voilà. C'est un peu le cordon ombilical. Hein. C'est-à-dire que... On ne part jamais avec des cartes papier parce qu'il vous faudrait au moins 10 kilos de cartes.
Oui, parce que ça représenterait un nombre de cartes hygiène impressionnant, ça, ces massifs à traverser.
Ah, totalement. Et surtout, là, vraiment, ça, c'est fabuleux. Disons, ces applications, c'est vraiment extraordinaire. Ça te géocalise au mètre près. Quand tu hésites, là, tu te dis, est-ce que je suis perdu ? Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Tac, tu regardes vite fait ton téléphone, ça te prend 2 secondes. Et ça t'évite de... Parce qu'il n'y a rien de plus ralent que de rater un chemin, parce qu'on a vite fait de rater des chemins. Hein. Et après, de se retrouver pas sur le bon truc, il faut remonter. Alors ça, c'est vraiment... C'est rageant, mais bon, ça fait partie du folklore.
Oui, et d'autres choses aussi rageantes, nous allons le découvrir au cours de ce documentaire. Hein. Beaucoup d'aventures humaines, de marches aussi, des fois des petits soucis. Hein. C'est ce qui compose cette marche du Léman à la Méditerranée. C'est le fameux GR5 que nous allons découvrir à travers votre conférence, Laurent, qui justement fait déjà le topo entre les Alpes du Nord, les Alpes du Sud. Et ensuite, c'est parti. À tout à l'heure après le documentaire.